Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 4 décembre 2014, en direct de Washington, Idrissa Seydoulia et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition.
Au Nigeria, les forces de l'ordre accusées de chasse aux sorcières par l'opposition.
Eh bien, à la haie plutôt, la CPI donne une semaine au procureur pour démontrer qu'il y a assez de preuves pour justifier un procès contre le futur président, le président kényan Uhuru Kenyatta, pour crime contre l'humanité.
L'épidémie d'Ebola s'intensifie en Sierra Leone, tandis qu'elle se stabilise dans d'autres pays ouest-africains, selon l'OMS.
À New York, on craint de nouvelles manifestations après la décision d'une chambre de mise en accusation de ne pas poursuivre le policier blanc accusé de la mort d'Eric Garner, un noir tué lors d'une tentative d'arrestation en juillet dernier.
Et en sport, le grand événement, c'est le résultat du tirage au sort de la CAN 2015.
Et nous lui consacrerons une bonne partie de notre page sport avant la musique de Roger Moutou en fin d'émission. Pour l'instant, le journal. Au Nigeria, le principal parti d'opposition accuse les forces de l'ordre de mener une chasse aux sorcières à l'approche des élections présidentielles et législatives de février 2015. Jean-Roger Bion.
Joe Igbokwe, porte-parole de l'APC, le principal parti d'opposition, a déclaré à l'AFP que les services de renseignement ont mené un autre raid contre le centre de documentation de son parti à Lagos. Il s'agirait du second raid en 10 jours. Le 22 novembre, des opposants ont été arrêtés à Lagos et n'ont toujours pas été libérés. À Abuja, le mois dernier, les forces de l'ordre ont usé de gaz lacrymogène dans le Parlement contre le président de la Chambre qui a quitté le PDP au pouvoir pour passer dans le camp de l'opposition. Le président Jonathan Goodluck briguera un second mandat de 4 ans lors des élections prévues en février 2015. Les tensions sont vives entre le PDP et l'APC, faisant craindre des violences électorales en plus des attaques meurtrières de Boko Haram.
Les juges de la Cour pénale internationale ont donné une semaine au procureur pour qu'il démontre des preuves supplémentaires contre le président kényan Uhuru Kenyatta ou à défaut qu'il retire ses accusations. Michel Joseph.
Un communiqué de la CPI indique que la Chambre a donné une semaine au procureur Fatou Bensouda pour retirer les charges ou apporter des preuves supplémentaires pouvant justifier un procès. Le procureur a accusé le gouvernement de Nairobi de refuser de coopérer. Selon l'accusation, des extraits bancaires, des déclarations d'impôts, des relevés téléphoniques pourraient prouver la culpabilité du président kényan. Uhuru Kenyatta était devenu, en octobre, le premier chef d'État en exercice à comparaître devant la CPI. Sa défense a demandé l'abandon des poursuites. Le président kényan, âgé de 53 ans, est accusé pour son rôle présumé dans les violences post-électorales de 2007-2008 au Kenya.
L'épidémie d'Ebola s'intensifie en Sierra Leone, alors qu'elle est en train de se stabiliser, voire baisser, dans d'autres pays ouest-africains. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la Sierra Leone a signalé 537 nouveaux cas confirmés dans la semaine qui a pris fin le 30 novembre, soit une augmentation de plus de 150 par rapport à la semaine précédente.
D'après les derniers chiffres qu'elle a publiés hier, l'OMS a déclaré que la transmission demeure persistante et intense à travers le pays, à l'exception du Sud. La région la plus affectée reste la capitale, Freetown, où plus de 200 nouveaux cas ont été recensés. En revanche, la situation s'est essentiellement stabilisée en Guinée, 77 nouveaux cas la semaine dernière, et au Libéria, 43.
Par ailleurs, l'Union africaine a annoncé hier à Lagos l'envoi de 250 soignants nigérians dans les pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par Ebola. Eddie Isango.
Lors de la cérémonie de départ des volontaires nigériens à Lagos, Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la commission de l'Union africaine, a appelé les compagnies aériennes à reprendre leurs liaisons avec la Guinée, les Libéria et la Sierra Leone. Des volontaires d'autres pays africains devraient emboîter les pas aux Nigérians. Madame Dlamini Zuma a également appelé les secteurs privés africains à mettre la main à la poche pour aider à faire face au virus Ebola. Elle a cité un exemple l'opérateur de téléphone sud-africain MTN et l'homme le plus riche d'Afrique, l'entrepreneur nigérian Ali Dangote. Au Nigeria, où l'épidémie a officiellement pris fin le 20 octobre, l'Ebola a touché 20 personnes, dont 8 sont décédées.
Après la première dame du Zimbabwe, c'est maintenant le président Robert Mugabe qui accuse à son tour la vice-présidente Joyce Mujuru d'œuvrer avec l'opposition et les pays occidentaux en vue de l'assassiner. Les précisions de Félix Yepassis Zembrou.
Les membres de la ZANU-PF, parti au pouvoir, assurent que leur leader, âgé de 90 ans, sera avec eux pendant longtemps encore. Mais les Zimbabwéens ne peuvent s'empêcher de discuter de sa succession. Les spéculations vont bon train concernant la vice-présidente Joyce Mujuru, une possibilité balayée d'un revers de main par le président Mugabe dans un discours de plus d'une heure prononcé hier au congrès de la ZANU-PF. Si vous avez l'esprit des Américains ou des Européens, vous n'appartenez pas à la ZANU-PF parce que nous savons qu'ils ne permettront jamais que leur richesse soit le socle des richesses de l'Afrique, a déclaré le chef de l'État zimbabwéen. La première dame, Grace Mugabe, a récemment lancé une campagne contre la vice-présidente Mujuru, affirmant qu'elle n'est pas du tout qualifiée pour prétendre succéder à son mari. Madame Mujuru n'a pas pris part à la session du congrès d'hier, renforçant les spéculations selon lesquelles sa carrière politique est en danger. Le comité central de la ZANU-PF pourrait approuver aujourd'hui les modifications constitutionnelles permettant au président de choisir lui-même son vice-président et l'ensemble des dirigeants du parti.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À New York, on craint de nouvelles manifestations liées au cas d'Eric Garner, un noir asthmatique de 43 ans décédé le 17 juillet dernier, quand un policier blanc lui a bloqué la respiration en lui enserrant le cou lors d'une tentative d'arrestation, ce qu'on appelle ici le « chokehold » ou la prise de l'étranglement, pourtant interdite depuis 1993. Une chambre de mise en accusation à Staten Island a décidé que le policier en question, Daniel Pantaleo, ne sera pas inculpé malgré une vidéo le montrant prendre Garner par le cou et le plaquer au sol, tandis que Garner se plaignait de ne pas pouvoir respirer. Les réactions n'ont pas tardé chez Ruben Dorsil.
Presque immédiatement après l'annonce de la décision du grand jury, le maire de New York, Bill de Blasio, un libéral, a exhorté les résidents de cette grande métropole américaine à ne pas céder à la violence. Nous sommes tous d'accord que la manifestation et la liberté d'expression contribuent valablement au débat et que la violence et le désordre sont non seulement mauvais, mais nuisent aux très importants objectifs que nous essayons d'atteindre ensemble, a dit Bill de Blasio. Alors que les tensions sont encore vives dans la communauté noire suite à la non-inculpation du policier blanc qui a tué Michael Brown, un jeune noir non armé dans le Missouri, et le meurtre d'un adolescent noir jouant avec un pistolet factice, la non-inculpation de Daniel Pantaleo, 29 ans, risque de mettre de l'huile sur le feu. Déjà le 23 août dernier, plus d'un mois après le drame, des milliers de personnes avaient protesté à Staten Island au cri de « No justice, no peace », »,« Pas de justice, pas de paix », le même slogan qui a rallié les manifestants à Ferguson. Le médecin légiste à New York avait conclu à un homicide dans le cas d'Eric Garner. Une poursuite au civil est très probable, estiment certains juristes interviewés à la télévision.
Réagissant immédiatement à la décision de la Chambre de mise en accusation de Staten Island, le président Barack Obama a souligné les frustrations de nombreux Africains-Américains qui ont le sentiment que les services de maintien de l'ordre ne travaillent pas avec eux ni ne les traitent équitablement. De son côté, l'attorney général ou ministre de la Justice Eric Holder a annoncé l'ouverture d'une enquête fédérale sur une violation éventuelle des droits civiques d'Eric Garner, ce que réclamait depuis des mois la famille Garner et des activistes.
L'Iran ne confirme ni n'infirme les affirmations américaines selon lesquelles Téhéran aurait effectué des raids aériens en Irak près de sa frontière contre les militants du groupe État islamique. Des responsables militaires américains ont en effet dit que des avions de fabrication américaine achetés par l'Iran dans les années 70 ont frappé des cibles du groupe dans la province orientale de Diyala. Le Pentagone précise que les États-Unis n'opèrent pas dans cette région.
Le premier ministre irakien Haider al-Abadi affirme quant à lui qu'il n'est au courant d'aucune intervention militaire aérienne dans la province de Diyala. Et l'Iran et les États-Unis se sont empressés de souligner qu'il n'y a aucune coopération militaire entre les deux pays. Par ailleurs, le général américain David Rodriguez a annoncé hier que le groupe État islamique avait établi des camps d'entraînement dans l'est de la Libye et l'exclut pour le moment des frappes aériennes contre ces camps, disant que les activités n'y sont qu'à leur début et sont petites. Le Pentagone, qui va continuer de suivre la situation, soupçonne que les éléments présents dans ces camps appartiennent à des milices locales. Voilà pour le journal. Merci à Anne Albertson, Washington, VOA Afrique, sur la Voix de l'Amérique. Nous revenons ce matin sur le rapport de Transparency International publié hier sur la corruption dans le monde. Idriss Fall a recueilli à ce propos des réactions sur le Mali et la Côte d'Ivoire, deux pays mentionnés dans le rapport. Tout d'abord, Moussa Sadio Traoré du Forum des ONG maliennes.
De façon générale, la corruption est en baisse par rapport aux actes posés qui contribuent à dénoncer les faits de corruption. Tel n'était pas le cas par le passé.
Dans les rues de Bamako, quand même, les policiers prennent tout le temps de l'argent des chauffeurs.
Ça n'a pas trop changé, mais ça a quand même diminué. Quand on voit un peu l'intervention de leur ministre, par rapport au comportement des policiers sur la route, maintenant, ils se cachent pour le faire. Alors que par le passé, ils ne le cachaient même pas. Avec pratiquement des intimidations par-ci par-là, avec des dénonciations, surtout avec l'appui des radios, aujourd'hui, il y a une peur qui est là par rapport à la corruption.
Pourtant, le dernier rapport du vérificateur général épingle les autorités.
Oui. Même là, c'est un premier du genre, puisque le Mali a acheté un aéronef qui a été au courant de cela, personne. Donc le fait que les autorités aient accepté d'ouvrir l'enquête, c'est vrai, ce sont eux-mêmes pratiquement qui sont impliqués dans cela, mais le fait d'accepter l'audit, c'est pratiquement une avancée.
Quand il n'y a pas d'appel d'offres, c'est souvent des dessous de table et des pots de vin aussi.
Effectivement, il n'y avait pas d'appel d'offres. Mais toute la transaction a été faite dans le cadre du respect de l'article 8 qui enlève carrément l'achat de l'aéronef, des équipements militaires, de la compétition. Le FMI et plus des autres partenaires là ont dénoncé cet article-là qui a été pratiquement modifié.
Il y a même un ancien ministre de la Défense qui m'a cité.
Le fait d'abord de produire un mémoire en défense, c'est pratiquement une inquiétude. S'il n'était pas inquiété, il n'allait pas pratiquement réagir au rapport du vérificateur et de la session des comptes de la Cour suprême.
Le Mali qui a reçu beaucoup d'aide, est-ce que vous pensez que l'argent va réellement vers les priorités du pays?
Le Mali a reçu beaucoup d'aide, mettez cela entre guillemets. Ce sont des annonces qui ont été faites dans le cadre du PRED, le programme de relance économique durable à Bruxelles. Dans ces annonces-là, qui dépassent pratiquement le milliard d'euros, il y a aussi la dette là-dedans. Il y a des crédits de 3, 60 à 65% de ce qui a été mobilisé. Ne sont pas passés par le trésor public.
Donc ça a été géré par qui? Et l'argent est allé où alors?
Mais l'argent a été géré par nos différents partenaires impliqués dans la résolution de la crise, notamment par la MINUSMA. Aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir un audit citoyen de cette somme faramineuse qui a été annoncée. Plus de 60 à 65% des fonds annoncés et mobilisés ne sont pas passés par le trésor public malien.
Moussa Sadio Traoré du Forum des ONG maliennes. La Côte d'Ivoire figure parmi les pays où Transparency International a noté des efforts contre la corruption. Écoutons à ce sujet Daniel Doudis, un responsable de Transparency USA.
En Côte d'Ivoire, on a vu un gouvernement qui a une certaine volonté à combattre la corruption. On a constaté que la présidence sous Ouattara a pris des engagements pour lutter contre la corruption, pour améliorer les institutions, surtout la justice et les forces de l'ordre. Et on commence à voir les fruits de ces engagements. On a vu que le gouvernement a enquêté sur un marché public qui a été corrompu. Et que le gouvernement a aussi limogé un certain nombre de magistrats corrompus. Donc on commence à voir que la présidence sous Ouattara a une vraie volonté à combattre la corruption et on espère que ça va continuer.
Daniel Doudis, un responsable de Transparency USA. Au Sénégal, les langues nationales font leur entrée à l'Assemblée nationale. Un système de traduction simultanée a été inauguré mardi grâce à un financement du Parlement européen. Le nouveau système est entré en vigueur peu après le sommet de la francophonie. Idriss Fall a joint à Dakar Madame Penda Ndiaye Cissé, députée.
J'ai trouvé qu'avec l'avènement de la deuxième législature, nous avons 150 députés, dont 64 femmes. La majorité des députés, en fait, ne parlent pas le français. Donc, qu'on puisse permettre à ces députés qui s'expriment dans leur langue nationale de pouvoir se faire comprendre par les autres députés qui ne comprennent pas cette langue-là. Il arrive même que le président lui-même ne comprenne pas ce que le député dit. Et que le ministre qui est venu pour défendre son budget, pour défendre un projet de loi aussi, que le ministre ne comprenne pas ce que dit le député. L'autre constat, c'est qu'au niveau du journal des débats, à chaque fois, quand les secrétaires transcrivent les débats dans le journal des débats, la secrétaire ou l'assistante écrit « à parler à Wolof » ou bien « à parler en serrère ». Alors que quand ils parlent en français, ils peuvent transcrire. Ces deux constats ont fait qu'il était important de pouvoir initier ce système pour permettre une meilleure compréhension de ce qui se dit au sein de l'hémicycle.
Et maintenant, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des interprètes qui sont là? Comment ça se passe?
Nous avons, avec le projet de l'Union européenne qui a financé les équipements d'interprétation, il y en a 8 cabines pour 6 langues nationales et le français. Donc nous avons 7 langues qui sont interprétés dans l'hémicycle. Et les interprètes ont été recrutés sur la base d'un appel à candidature. C'est des jeunes étudiants diplômés qui maîtrisent une ou deux langues nationales.
Les langues nationales au lendemain du sommet de la francophonie au Sénégal? C'est un hasard de calendrier?
Non, c'est un hasard de calendrier. Le système était mis en place depuis l'année dernière et c'est parce qu'on a eu à former ces interprètes que l'inauguration a pris du temps, en fait. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec la francophonie. La francophonie, c'est le français, vous me direz. Mais si vous allez au Parlement européen, vous avez 28 pays qui sont présents dans le Parlement et vous avez 24 langues qui sont parlées, qui sont interprétées dans cette institution-là. Et c'est le Parlement européen, avec son président en tête, qui ont appuyé l'Assemblée nationale du Sénégal pour la mise en place de ce système. Le français, c'est une langue de travail à l'Assemblée nationale qu'on va continuer à utiliser. Le français est la langue officielle du Sénégal, mais on n'a pas dit que c'est la langue exclusive de travail.
C'était Madame Penda Ndiaye Cissé, députée au Parlement sénégalais. Les sports à présent avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
On connaît les groupes de la phase finale de la CAN 2015.
Oui, à l'issue du tirage au sort qui a eu lieu hier soir à Malabo, on a les répartitions suivantes. Dans le groupe A, la Guinée équatoriale, le Burkina Faso, le Gabon et le Congo-Brazzaville. Rappelons que la Guinée équatoriale a dû remplacer au pied levé le Maroc qui a décliné l'organisation de la CAN aux dates prévues en raison de l'épidémie d'Ebola. Et pour Sita Sangaré, le président de la Fédération burkinabé de football, joue avec le pays hôte, présente un certain avantage.
C'est une bonne chose de pouvoir jouer dans le groupe du pays organisateur parce qu'il ne faut jamais oublier que le football, c'est avant tout un spectacle. Et le pays organisateur évoluant devant son public, cela garantit une certaine ferveur populaire et toute chose qui est bien pour le public sportif qui aura droit à un spectacle. Maintenant, j'espère que ce spectacle sera de qualité. Quant au Congo-Brazzaville et au Gabon, c'est de vieilles connaissances du Burkina. Nous avons joué contre le Gabon tout de suite pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Et le Congo-Brazzaville, nous l'avons affronté lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et donc, nous ne sommes pas en territoire inconnu. Nous allons certainement nous préparer pour être fin prêt pour le début de la compétition.
Quant au Congo-Brazzaville, il n'avait plus joué une seule Coupe d'Afrique des Nations depuis 1990. Son sélectionneur Claude Leroy, qui lui est à sa 8e participation, se réjouit du retour des Diables Rouges.
C'est du bonheur d'être qualifié pour une Coupe d'Afrique des Nations après 15 ans d'absence. Et pour ces jeunes joueurs qui n'ont jamais connu la Coupe d'Afrique des Nations, qui l'ont su quand ils étaient même pas adolescents, enfants, presque sortir de l'âge des couches maternelles, pour retrouver cette Coupe d'Afrique des Nations en faisant le match d'ouverture, c'est une chance extraordinaire. Donc maintenant, on va essayer d'être digne de cette compétition. On va essayer de bien jouer au foot et d'être exemplaire dans le comportement.
Et comment vous trouvez vos adversaires?
Compliqué, le Gabon, ils sont toujours là depuis un moment, c'est une grosse équipe. Le Burkina Faso, c'est vice-champion d'Afrique. Et la Guinée équatoriale, ce sont les organisateurs. Donc, bien évidemment, ça va être difficile, mais on va essayer de se battre pour faire honneur à cette Coupe d'Afrique des Nations.
Dans le groupe B, on retrouve la Zambie, la RD Congo, la Tunisie et le Cap Vert.
Bagassi, avant de passer au groupe C, voici la réaction de Jean-Florent Ibengue, le sélectionneur des Léopards de la RDC.
Un groupe équilibré avec trois équipes qui sont a priori au-dessus de nous. la Tunisie qui semble être favorite, mais pas avec une grande longueur d'avance, puisque le Cap-Vert fait partie des pays qui se sont qualifiés très tôt dans la compétition. Ils sont en train de monter en puissance avec une équipe très homogène et talentueuse. Et puis il y a la Zambie qui a une expérience de victoire très récente, puis un novice qui est la RDC. Donc, qui fait office de petit poussé. Donc, un groupe qui sera très relevé pour nous, qui sera difficile à jouer, mais on a l'envie et puis la volonté d'embêter tout le monde et d'accrocher une des deux premières places.
Le groupe C, le groupe de la mort avec le Ghana, l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Sénégal. Et enfin, le groupe D avec la Côte d'Ivoire, le Mali, le Cameroun et la Guinée. Écoutez la réaction de l'ancien gardien des éléphants, Alain Gouamene. Il pense que la Côte d'Ivoire aura affaire à des adversaires difficiles.
La Côte d'Ivoire, je veux que des derbys, quoi. Des derbys, parce que je veux qu'on a le Mali, c'est un derby. La Guinée frontalière à la Côte d'Ivoire, c'est un derby. Et le Cameroun, l'éternel rival de la Côte d'Ivoire. Donc, ça va être des matchs difficiles, des matchs durs, terribles, moralement. Il faudra tenir pour aller passer la première phase. Pour le moment, on a eu une qualification chaotique. Et c'est le jour J. Ça n'a pas eu du mois de janvier, quoi. Après le 17-18 janvier, l'équipe sera bien préparée. Je pense qu'elle passera le premier tour. Non, mais je ne me fais pas soucier pour la Côte d'Ivoire. C'est dans ces conditions que nous sommes souvent très, très, très forts.
Le Sili National a joué tous ses matchs de qualification à l'étranger en raison de l'épidémie d'Ebola. On écoute Michel Dussuyé, sélectionneur du Sili National.
Oui, un groupe très relevé, avec composé de grandes équipes. Un gros challenge pour nous, mais c'est aussi un challenge excitant parce qu'on aura à cœur de bien figurer contre ces équipes-là. Bien sûr, on ne part pas favori du groupe, donc on n'a pas la pression sur les épaules. On aura juste à cœur de créer la surprise. Il y a des derbys en perspective avec le Mali et la Côte d'Ivoire qui sont des pays frontaliers.
La phase finale de la CAN Guinée-Équatoriale 2015 va se tenir du 17 janvier au 8 février 2015 et le tournoi va se dérouler dans les villes de Bata, Malabo, Bibeye et Mongomo. Et Idrissa, des résultats de basketball pour terminer.
Chicago 102, Charlotte 95, Los Angeles Lakers 95, Washington 111. San Antonio 93, Brooklyn Nets 95, Atlanta 112, Miami 102, Memphis 96, Houston 105, Dallas 107, Milwaukee 105, Philadelphia 85, Minnesota 77, Toronto 123, Utah 104. On passe maintenant à la page musicale de Roger Muntu. Salut Roger.
Bonjour Idrissa. Mauvaise nouvelle pour les fanatiques de la musique africaine. Fantani Touré n'est plus. Cette chanteuse hors pair et une des représentantes féminines les plus célèbres de la musique malienne est décédée mercredi à Paris à l'âge de 50 ans. Au cinéma, elle a joué dans deux films, Sia, le rêve du python de Danny Kouyaté et La Genèse de Cheikh Omar Sissoko. Un ami de l'artiste, le journaliste et chroniqueur de musique Maurice Touré, se rappelle d'une femme efficace.
Bon, on a l'habitude africaine de dire ça va, mais là, on dit que ça ne va pas trop, ça ne va pas trop. Voilà, parce que c'est un grand combattant de la musique africaine qui est tombé aujourd'hui. Ce n'est pas dire, c'est une artiste avec grand A. Elle était danseuse, elle était chanteuse, elle était cinéaste, elle était entrepreneuse culturelle, elle était opératrice culturelle. Fantani était dans tous les combats de la culture de la musique. Il y a quelques années, elle avait rassemblé plus d'une vingtaine d'artistes maliens pour qu'on puisse jouer au nom du Mali au Zénith une salle mythique. Elle s'apprêtait encore à faire cette deuxième édition. C'était en 2016. Je me rappelle encore, il y a quelques jours, elle m'a appelé. Mon frère, préparez-vous. Le Mali doit être au Zénith encore pour la deuxième fois. Nous sommes les plus grands. Il faut qu'on soit encore plus grands à Paris avec tous ces grands artistes. C'était Fantani Touré, ça. On dira beaucoup de choses, mais j'ai dit aujourd'hui qu'on a perdu une grande battante parce que le courage, l'arme et la force qu'elle avait, beaucoup d'artistes sont dans ce milieu. Je ne veux pas faire de la part belle à qui que ce soit, mais il n'y a aucun qui avait le courage de cette dame-là se battre pour sa culture, se battre pour la musique malienne.
C'était le journaliste et chroniqueur de musique Maurice Touré, un ami à Fantani Touré. Idrissa, notre collègue Nathalie Barge a aussi joint l'écrivaine et activiste malienne Aminata Dramane Traoré, ancienne ministre de la Culture, très bouleversée par la disparition de Fantani Touré.
Elle était toujours désireuse d'être impliquée dans des initiatives qui ont du sens, quoi.
Très rapidement, lorsque moi j'ai reçu ici les migrants refoulés de Ceuta et Melilla, j'ai sollicité beaucoup d'artistes. Elle était avec moi et bon, récemment, la dernière fois, j'avais une formation ici, les femmes et la culture et l'économie. Donc elle est venue rapidement m'embrasser. Elle ne pouvait pas rester, elle devait repasser et puis on ne s'est plus revu.
Elle était également impliquée dans des projets de défense des droits de la femme et notamment à travers son festival féminin, les Voix de Bamako.
Oui, une fois par an, c'est vrai, il y a quelques années, elle a voulu créer cet espace, voix plurielle, voix de femme, parce qu'elle s'est rendue compte elle-même de l'importance de la prise de parole. Elle sollicitait différentes intervenantes, mais aussi des intervenants, pour rendre compte de l'importance du rôle des femmes dans notre société. Elle se battait comme elle pouvait, à la fois dans son domaine, mais aussi au plan social. Il y a certaines chansons de Fantani est absolument bouleversante. Elle chante dans plusieurs langues, compte tenu de la situation culturelle. La crise, elle a vraiment voulu un pays uni dans sa diversité, quoi.
C'était Fantani Touré dans Zouk Mandeng. Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie Idrissa. En cette douloureuse circonstance, nous nous inclinons devant l'âme de la défunte et présentons nos sincères condoléances les plus attristées à toute sa famille et à ses fans.
Retrouvez Roger Muntou dans le RM Show à 20h temps universel. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington sur la Voix de l'Amérique. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique sur la Voix de l'Amérique.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.